RCF.
C'est parfois difficile d'être soi-même et de s'aimer tel que l'on est. On peut avoir envie d'être quelqu'un d'autre, envier les qualités du voisin ou se terrer dans son fort intérieur parce que l'on a peur d'être critiqué ou jugé. Être soi-même ne va pas de soi, pourtant il existe des moyens concrets pour développer une bonne estime de soi. Une estime qui peut se consolider, c'est en tout cas l'avis de Christophe André qui est notre invité cette semaine. Christophe André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Auteur de plusieurs ouvrages, vous signez un livre intitulé « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi ». Alors un livre sur l'estime de soi, une époque où le nombrilisme et l'ego est partout, c'est pas en rajouter une couche supplémentaire ?
Non, car l'estime de soi en réalité c'est un petit peu le contraire pratiquement du nombrilisme. Vous savez, en réalité ce dont on s'aperçoit c'est que plus l'estime de soi va bien, mieux elle va, plus elle fonctionne de façon adaptée, moins on pense à soi. Et lorsqu'on est tout empêtré dans soi-même, lorsqu'on se pose sans arrêt la question de savoir au fond qu'est-ce qu'on va penser de moi, quel effet je vais faire, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas être ridicule, est-ce que j'ai pas dit une bêtise, quand on est trop centré sur soi, c'est en réalité le signe que l'estime de soi est en train de souffrir, qu'il y a une inquiétude de notre personne. Et plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, plus nous avons un rapport tranquille avec nous-mêmes, moins nous allons penser à nous et plus nous allons nous tourner vers les autres. Donc au fond, il y a un effet paradoxal et le nombrilisme en général, c'est une estime de soi insécurisée ou mal comprise.
Alors au début de votre livre, vous dites que l'estime de soi est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, plus par rapport à nos parents, nos grands-parents.
Peut-être à partir de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est-à-dire nos sociétés ont quand même connu un très très grand changement. Vous savez, autrefois on vivait, pour faire simple, dans des sociétés beaucoup plus stables, beaucoup plus statiques, qui étaient des sociétés de la place. On occupait une place sociale, on était fils d'eux, fils d'agriculteurs, fils d'artisans, fils de bourgeois, mari ou femme d'eux, enfant d'eux. Et au fond, pour être estimé par les autres et pour s'estimer, il suffisait de jouer son rôle, de faire ce que la société attendait de nous et au fond, jouer cette partition suffisait. Aujourd'hui, nos sociétés sont beaucoup plus dérégulées. Il faut beaucoup plus qu'autrefois faire ses preuves, montrer qu'on a de la valeur. On est pris beaucoup plus qu'autrefois aussi dans des compétitions dont on se passerait bien, des compétitions scolaires, des compétitions professionnelles, des compétitions au statut, sur l'apparence physique, sur les signes de pouvoir, de richesse, etc. À notre corps défendant, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, ça ne les intéresserait pas du tout au départ, ces compétitions, mais on est emporté là-dedans. Et du coup, on s'aperçoit que ces problèmes d'estime de soi qui n'étaient pas cruciaux autrefois le deviennent et on a de plus en plus de gens qui dans nos sociétés qui sont des sociétés très compétitives, très violentes, très comparatives vont souffrir en termes de rapport à eux-mêmes, vont avoir une espèce d'insatisfaction d'eux, d'inquiétude d'eux-mêmes qui était moins forte autrefois.
Ils doutent d'eux-mêmes.
Ils doutent d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans une société qui les fait douter.
Alors comment définir l'estime de soi ?
L'estime de soi, c'est le rapport intime à soi-même, c'est-à-dire c'est au fond le regard et le jugement qu'on porte sur soi, qu'est-ce qu'on voit de nous-mêmes parfois et qu'est-ce qu'on ne sait pas voir de nous et qu'est-ce qu'on en pense. Et au fond, l'estime de soi, c'est le mélange de ce regard et de ce jugement que nous portons sur nous avec une autre dimension aussi, c'est que tout ça se fait en référence aux autres. Au fond, la notion d'estime de soi, elle n'aurait pas de sens si nous étions des êtres de solitude, si nous vivions tout seuls. Sur une île déserte, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de savoir qui on est, ce qu'on vaut. Au fond, nous pourrions vivre de manière beaucoup plus instinctive. Alors que là, l'être humain est un animal social, comme on dit, c'est Montesquieu qui disait ça. Et au fond, en tant qu'animal social, il a besoin de savoir ce qu'il vaut aux yeux des autres. Comment se situer, est-ce qu'il est au même niveau, au-dessus, au-dessous. C'est quelque chose qui est un petit peu naturel. Alors bien sûr, certaines sociétés poussent à ce type de mouvement. Et au fond, l'estime de soi, c'est le sentiment de notre valeur, à nos yeux bien sûr, mais aussi aux yeux des autres.
Donc une facette privée, soi devant soi, et puis une facette publique, moi devant les autres.
C'est ça. Et avec, mélangeant joyeusement tout ça, des frontières entre la réalité et le fantasme pas toujours très claires, parce que parfois nous ne nous voyons pas comme les autres nous voient. Nous pensons que les autres ne voient que nos défauts, que nos limites, que nos failles, et en réalité les autres ont un regard plus tolérant qu'on ne l'imagine. Ou inversement, pour les gens très narcissiques, qui ont une très haute idée d'eux-mêmes, ils se pensent adorés, adulés par tout le monde, alors que parfois ils agacent ou ils dérangent.
C'est ce que vous appelez dans votre livre ceux qui ont une basse estime d'eux-mêmes et puis ceux qui ont une haute estime d'eux-mêmes?
Oui, une haute et fragile. Ce qu'on voit en matière d'estime de soi, c'est que l'estime de soi peut être fragile et que lorsqu'on sent qu'on a des doutes sur soi, vous savez, il est normal de douter de soi, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs le doute, mais à dose médiane. Trop peu douter ou douter excessivement sont les deux problèmes qui peuvent se poser à nous. Et lorsqu'on doute de soi et que ce doute est excessif, on a le choix entre deux attitudes pour soigner ce doute. Soit la soumission, c'est-à-dire comme je ne suis pas sûr de ma valeur sociale, de mes capacités, eh bien je vais me faire tout petit ou toute petite, je vais être très inhibé, je ne vais pas oser prendre de risques, je ne vais pas oser aller vers les autres, je vais toujours avoir peur de faire des bêtises et je vais m'en protéger en n'agissant pas ou le moins possible. Mais il y a aussi une autre tentation qui est celle de bomber le torse, d'essayer de prouver aux autres et à moi-même que je suis quelqu'un de bien, donc ne jamais reconnaître mes torts, tenter d'avoir toujours raison, ne jamais me remettre en question. Ces deux façons de se comporter signent la présence de problèmes d'estime de soi. On est insécurisé avec sa propre image et son image aux yeux des autres.
Alors, en dehors de ces deux excès, quel pourrait être une bonne estime de soi-même?
Alors ça, c'est une question qui est très importante pour les chercheurs et les thérapeutes. Longtemps, on pensait qu'une bonne estime de soi, c'était une estime de soi haute, avoir le plus possible d'idées positives sur soi. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça. On s'aperçoit que les gens dont l'estime de soi est adaptée et bonne, c'est pas seulement des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Bien sûr, il faut avoir un minimum de regard positif sur soi, mais il ne faut pas avoir que ça. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'une bonne estime de soi, c'est aussi une estime de soi qui est stable, c'est-à-dire qui résiste à l'adversité. Vous savez, ce qu'on appelle par exemple les sujets narcissiques, qui ont une trop haute estime d'eux-mêmes, ont aussi une estime d'eux-mêmes instable. C'est-à-dire, dès qu'ils sont confrontés à un échec, dès qu'ils sont confrontés à une critique, ça se passe très mal. Ils s'énervent, ils deviennent hostiles ou agressifs ou dépressifs. Et on voit que dans ce qui compose une bonne estime de soi, c'est pas seulement qu'elle soit assez haute, mais c'est aussi qu'elle soit assez stable et résistante aux difficultés de la vie de tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'une bonne estime de soi suppose l'idée d'acceptation de soi. S'accepter imparfait, c'est pour ça que le livre s'appelle « Imparfait, libres et heureux ». Cette notion d'accepter ses imperfections, elle est très subtile à faire passer, par exemple, à nos patients en thérapie, parce que accepter qu'on ait des défauts ne veut pas dire se résigner à les cultiver, à les subir. C'est une phase qui fait qu'on va mieux pouvoir les changer. D'abord, on comprend qu'on ne peut pas être parfait, hein, que le perfectionnisme est une défense et une impasse, qu'il faut essayer de changer, mais qu'il ne faut pas se mettre une pression excessive sur ça. Et donc, une bonne estime de soi, c'est aussi ce qui se passe chez les gens qui ont compris qu'ils avaient des défauts et qu'il ne fallait pas forcément les transformer en complexes.
Repère, Béatrice Soltner.
En compagnie de Christophe André qui signe un ouvrage sur l'estime de soi. Alors, on a parlé de ces estimes qui ne sont pas vraiment des estimes puisqu'on se mésestime ou on se surestime. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, ces problèmes d'estime avec soi-même? Est-ce que c'est lié à l'éducation? Est-ce que c'est lié à des échecs qu'on a subis?
Oui, il y a tout un enracinement, évidemment, de l'estime de soi dans le passé, qui est lié d'abord à des expériences précoces. Est-ce que nos parents nous ont donné un socle d'amour, d'affection suffisant pour nous sentir en sécurité avec les autres et avec nous-mêmes, nous sentir dignes au fond de recevoir l'amour et l'estime des autres plus tard, ça c'est important. Il y a aussi une histoire d'éducation et de valorisation. On sait qu'il y a des parents, parfois croyant bien faire, qui vont éduquer très durement leurs enfants, qui ne vont jamais leur dire qu'ils sont mignons, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont dégourdis, qu'ils sont bien, qu'ils sont des
parfois c'est jamais assez bien.
Voilà, et qui vont, pour essayer de pousser leurs enfants vers le mieux, ne jamais reconnaître ça. Et en fait, il y a un petit danger à ce genre d'attitude. Évidemment, on va peut-être augmenter la performance de nos enfants, mais on va fragiliser l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, parce qu'on va en faire une estime de soi conditionnelle. Je ne suis quelqu'un de bien que si je réussis ce que j'entreprends. Et du coup, ben, quand on échoue, on devient quelqu'un de minable. Et c'est pas ce qui est tout à fait totalement faux, évidemment, mais les gens y croient à ça. Donc, il faut faire attention dans l'éducation qu'on délivre à nos enfants, à ce niveau-là, de valoriser pas seulement les succès, mais aussi le fait d'avoir essayé, pouvoir dire à son enfant, écoute, ça n'a pas marché, mais c'était bien que tu tentes, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, on peut apprendre aussi de nos échecs. Quelque chose de très important dont on s'aperçoit aujourd'hui, un effet de génération, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été très aimés, très valorisés par leurs parents, mais qui n'ont pas reçu de limites, qui n'ont pas été éduqués. Et alors ça, c'est pas terrible non plus parfois, parce que ça donne des hautes estimes de soi. Ces enfants se pensent être les rois du monde, mais très instables là aussi, qui sont mal taillés pour la vie en société, qui supportent pas qu'on leur passe devant, qu'on parle plus qu'eux, de pas être le centre du monde. Et donc ces enfants vont avoir des hautes estimes de soi instables, et du coup ils vont devoir travailler psychologiquement plus tard. Ce qu'on peut dire aussi des parents, c'est que évidemment leur propre façon de leur propre estime d'eux-mêmes, leur propre façon d'être en rapport avec eux-mêmes est importante. Les enfants regardent ce que nous faisons aussi face à un échec, nous nous effondrons, nous nous dévalorisons. Eh bien, ils vont retirer la leçon. S'ils voient que dans les discussions, on n'accepte jamais d'avoir tort, on est têtu, on se remet jamais en question, ils vont aussi imiter ce que nous faisons. Donc tout ça, évidemment, tout cet héritage met en place des bases de l'estime de soi. Et on arrive à l'âge adulte avec ces influences du passé qui ne sont pas inexorables, hein. Ce passé ne se transformera en destin, c'est-à-dire ne se répétera toute notre vie, que si on ne prend pas de recul, que si on ne travaille pas dessus. Mais évidemment, si on y réfléchit, si on le travaille, on peut s'en affranchir s'il y a eu des problèmes.
Alors justement, vous, Christophe André, vous aidez vos lecteurs à avancer dans ce domaine de l'estime de soi. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Imparfait, libre et heureux » paru chez Odile Jacob. Vous dites que l'estime de soi commence par l'acceptation de soi. Vous avez un long chapitre sur cette acceptation. Quel est le lien entre l'estime et l'acceptation ?
Le lien, il est très très fort et pas évident justement à accepter, parce que lorsque les gens viennent nous voir en thérapie et que si on se mettait à leur parler tout de suite d'acceptation, en leur disant bah, « il faut vous accepter tel que vous êtes », ils ne seraient pas du tout contents, ils auraient raison en disant comment m'accepter, mais déjà je passe mon temps à pas oser dire non, à me faire tout petit, à pas oser gérer ma vie comme je le souhaite, et il faudrait que j'accepte ça. Mais cette notion d'acceptation, elle est pourtant fondamentale, d'abord parce que de gré ou de force, nous sommes des êtres imparfaits, c'est-à-dire nous ne sommes pas taillés pour la perfection, nous sommes taillés pour essayer de nous en rapprocher, pour nous diriger doucement vers nos idéaux, mais évidemment qu'on ne peut pas prétendre à la perfection et penser qu'avoir un bon rapport à soi, c'est ne jamais faire d'erreur, c'est quelque chose de très toxique. Et vous savez, l'acceptation de soi, ça veut dire se donner le droit de mal faire les choses ou de risquer de mal les faire. Par exemple, à une conférence, oser poser une question alors qu'on n'ose pas la poser de peur qu'elle soit pas assez drôle, pas assez originale, pas assez pertinente.
Il y a plein d'exemples dans votre livre. Vous parlez des dîners, par exemple, où on est à table et on n'ose pas parler du sujet parce qu'on s'y connaît pas et on se dit je vais faire une gaffe.
Et oui, on est avec des gens qui connaissent très bien le sujet. Nous, on le connaît pas et alors on se cache au lieu de se dire chouette, moi j'y connais rien. Je vais leur dire ah ben vous savez, j'y connais rien. Je me régale à vous écouter. Et non, on a honte de ça. Eh bien, on n'accepte pas ce petit bout de nous-mêmes qui ne sait pas, comme si au fond le fait de pas savoir faire ou de pas avoir de connaissances dans un domaine donné faisait de nous une sous-créature. nous faisait perdre notre dignité. Et c'est là où c'est fondamental, cette notion d'acceptation. C'est-à-dire, je suis imparfait, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses dans lesquelles j'échoue, mais je suis un être humain respectable et estimable. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, que les autres me voient. C'est moi, mon plus sévère censeur, mon juge le plus sévère. Et on a souvent des personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont et qui se font violence, qui se parlent durement, qui se font du mal, qui se frappent parfois. Donc c'est vrai que ce socle de l'acceptation de soi qui, une fois de plus, je le précise parce que vraiment souvent il y a un malentendu, l'acceptation c'est pas la résignation. C'est pas se dire je suis nul et je resterai nul et après tout c'est génial d'être nul. C'est-à-dire, je suis imparfait, si je veux changer je peux le faire mais il faut que je le fasse tranquillement, faut pas que je me fasse violence. Je dois faire un peu comme un pédagogue avec un enfant. Si j'ai à apprendre quelque chose à un enfant et que l'enfant a du mal, je dois accepter qu'il ait du mal pour mieux l'aider et non pas le refuser en disant « mais comment ça se fait, tu comprends rien, fais un effort, bon sang ». Si je suis dans le refus des difficultés, je n'aiderai pas les gens ni moi-même à progresser.
Alors dans l'acceptation, il y a la partie physique aussi, parce que beaucoup de gens ne s'aiment pas vraiment physiquement, hein, ça revient très très souvent. Parce que on est trop gros, parce qu'on est trop petit, parce que on n'a pas de beaux yeux, on s'estime moche. Comment avancer ?
Ça, c'est épouvantable. Moi, j'ai beaucoup de mal avec notre société qui nous pilonne de modèles comme ça, de perfection physique. Ça, c'est un des grands mensonges. Quand les historiens, les sociologues de l'avenir se pencheront sur notre époque, je crois qu'ils seront horrifiés par ce mensonge généralisé sur l'apparence physique, où on est bombardé d'images, de mannequins, de présentateurs télé, tous plus artificiels les uns que les autres, quoi. Des gens qui se sont fait refaire les dents, refaire le visage, de liposuction, du lifting dans tous les sens. Et peu à peu, on est intoxiqué par ça. C'est-à-dire, à force d'être pilonné par ce genre d'image, on finit par inconsciemment faire une comparaison avec nous. Et quand on se voit dans la glace, évidemment, on est moins beau que ces gens-là, moins parfait, moins à la norme en tout cas. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est une augmentation très régulière du sentiment d'insatisfaction avec son apparence physique, des complexes physiques, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, de troubles de l'alimentation, d'obsession du régime, de consommation de chirurgie esthétique. Et ça, alors, s'il y a quelque chose à faire sur ça, c'est évidemment, il faudrait pouvoir le faire au niveau collectif, il faudrait pouvoir quand même attirer davantage l'attention des gens sur une méfiance à développer vis-à-vis de ce type de mensonge, de la publicité, quoi. Il faudrait, mais alors c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Il faudrait presque qu'on sache que, vous savez, je vous donne l'exemple de la télé. Quand vous passez à la télé, vous avez toujours bonne mine parce que vous êtes maquillé, on vous met des millimètres ou des centimètres de fond de teint, donc tout le monde a toujours l'air bronzé, de bonne humeur. Bon. Et évidemment, c'est pas comme ça qu'on est nous-mêmes dans notre propre vie. Donc je crois qu'il faut attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a une dictature quand même à l'apparence physique aujourd'hui, qui atteint un degré de violence jamais atteint.
Mais comment on travaille vers une meilleure acceptation physique, puisque vous, des patients viennent vous voir, ils veulent concrètement avancer. Quelqu'un qui ne se supporte pas physiquement, quel exercice vous pouvez lui proposer ?
Alors, d'abord, on lui rappelle qu'une première étape, c'est sans doute une étape d'humilité, parce que souvent, les personnes n'écoutent pas ce qu'on leur dit. C'est très, très étonnant de voir comment des gens très complexés physiquement, en fait, sont dans une espèce d'orgueil incroyable, parce que leur entourage leur dit « mais tu sais, tu es très bien comme ça, il y a des tas de gens à qui tu plais, etc. » dit « non, c'est moi qui ai raison. » Je sais que je suis sans beauté, sans charme, sans grâce. Et donc, il y a une espèce de refus d'écouter ce que disent les autres. Donc, c'est important de réfléchir, de discuter à ça. Ensuite, il y a une seconde discussion qu'on essaie d'avoir avec eux, c'est faire la différence entre la beauté et le charme. Souvent, notre société voudrait nous vendre de la beauté. Beaucoup nous donnent des modèles de beauté parfaite. Il y a des gens très beaux, effectivement. Et plus on va les voir, moins on va se sentir beau. Là, on a des tas d'études de psychologie où on montre très clairement que plus vous projeter des photos de personnes très jeunes et très belles à n'importe qui, et plus ça va déprimer finalement, ça va nous faire sentir vieux et moche. Bon. Donc c'est la confrontation avec la beauté est toujours douloureuse. Hein. Je crois que c'est Cocteau, je ne sais plus quel écrivain, qui disait « la beauté nous blesse sans merci ». Et il y a un petit peu de ça. Mais en réalité, la grosse erreur que nous faisons, c'est que nous confondons la beauté et le charme. La beauté, c'est une sorte d'absolu, un petit peu effrayant, comme toutes les formes d'absolu. Et le charme, c'est la beauté en mouvement, la beauté perçue par les autres. Il y a des gens qui ont un charme incroyable alors qu'ils ne sont pas beaux, pourvu qu'ils arrêtent de s'observer, pourvu qu'ils s'oublient eux-mêmes, pourvu que lorsqu'ils sont en action, au lieu de se dire comment on m'observe physiquement, quelle impression je fais physiquement, ils s'affranchissent de ça et ils parlent, ils communiquent, ils échangent, ils bougent. Et c'est là que le charme apparaît. C'est pour ça que les enfants, les jeunes enfants ont beaucoup de charme, parce qu'ils oublient de s'observer, ils oublient d'observer l'effet qu'ils font aux autres. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à vivre les situations au présent et non pas avec cette espèce de sortie de soi-même où on se demande quel effet on fait, qu'est-ce que les autres sont en train de penser de nous. Et donc on fait ça avec ce qu'on appelle les techniques de thérapie cognitive, où on apprend aux gens à lutter contre ces pensées automatiques qui leur arrivent, qui sont au fond de se dire derrière tout regard il y a un jugement. Cette personne est en train de me regarder fixement, mais c'est pas moi qu'elle regarde, c'est mon nez, c'est mes oreilles, c'est mes seins, mes fesses, mes bras, mes cheveux. Et cette espèce de réductionnisme épouvantable du regard, ça, on va beaucoup, beaucoup travailler sur ça en psychothérapie.
Repère RCF.
Christophe André, dans votre livre « Imparfait, libre et heureux » paru chez Odile Jacob, vous encouragez vos lecteurs à changer leur regard sur eux, mais aussi sur les autres, sur le monde, à pratiquer par exemple la gratitude. Alors quel lien avec l'estime de soi, la gratitude ?
Ah ça, j'aime beaucoup, oui, faire ces exercices de gratitude, moi-même d'ailleurs, et puis avec mes patients. Mais le lien est très important, c'est-à-dire... L'estime de soi ne peut pas se concevoir sans estime des autres, finalement. Ce que je rappelle à mes patients et à mes lecteurs, donc dans l'ouvrage, c'est qu'au fond, contrairement à ce qu'on croit, l'estime de soi, ça peut pas marcher en étant de l'égotisme. Une bonne estime de soi, c'est se sentir à sa place au milieu des autres. C'est sentir tous les liens, toutes les connexions que nous avons avec les autres humains. C'est pas se sentir inférieur à eux, c'est pas se vouloir supérieur, c'est juste se sentir leur égal.
En lien avec une communauté plus large.
Absolument. Et donc, on travaille beaucoup sur des petits exercices, comme ces exercices de gratitude, qui consistent tout simplement à dire aux personnes, essayez chaque jour, tous les soirs, de réfléchir à d'autres humains qui ont fait quelque chose pour vous aujourd'hui, ou auxquels vous avez pensé aujourd'hui. Une personne qui vous a souri, qui vous a tenu la porte, qui vous a dit des choses intéressantes. Vous avez écouté un disque de Bach, pensez à Bach, c'est génial, Bach a écrit cette musique merveilleuse, soyez reconnaissants, il y a de la gratitude pour lui, pour les luthiers qui ont fait les instruments, pour les ingénieurs du son qui ont enregistré le disque, les interprètes qui ont joué cette version que vous avez écoutée. Et pour peu qu'on y fasse attention, on voit très bien au fond que nous sommes dans une espèce de chaîne extraordinaire d'intelligence, d'humanité, que nous appartenons à une espèce qui peut faire des choses épouvantables, mais aussi des choses géniales. Et l'estime de soi est beaucoup plus forte, est beaucoup plus stable si elle passe aussi par une estime et un respect des autres. Donc il y a ces petits exercices de gratitude, mais il y a aussi toutes les attitudes de gentillesse, toutes les attitudes d'acceptation des autres, ce qui ne veut pas dire soumission, là non plus. C'est pas... Les autres peuvent être parfois casse-pieds, mais arrivons à nous défendre de leur côté casse-pied sans pour autant rejeter l'ensemble de la personne. Le problème, c'est les comportements, ce ne sont pas les individus. Donc tout ça fait partie aussi des exercices d'estime de soi. Élargir son regard, quitter son nombril pour s'ouvrir un petit peu au rapport avec les autres.
Et vous terminez votre livre en disant que le sommet de l'estime de soi, c'est l'oubli de soi. Alors beaucoup d'auteurs ont parlé de cet oubli de soi, vous parlez de l'humilité aussi.
Oui.
Finalement, se sentir à sa place, c'est pouvoir s'aimer et reconnaître l'autre et donc sortir de la toute-puissance aussi.
Absolument, absolument. Et ne plus, une fois de plus, comme on l'évoquait en début d'émission, ne plus être centré sur soi. Vous savez, l'estime de soi, c'est pas un but. C'est pas un but, l'estime de soi, c'est juste un moteur. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet justement de profiter de l'existence, de nous tourner vers les autres, de nous tourner vers l'action, d'être un citoyen du monde, d'être un être humain en lien avec ce qui nous entoure. Et au fond, c'est comme un moteur de frigo ou de voiture ou de chaudière. Si ça marche bien, on l'entend plus, on n'y fait plus attention et il fait son boulot et c'est parfait. Alors, l'estime de soi, si on est toujours en train de penser à elle, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il va falloir réparer.
Et on est loin de l'égocentrisme dont on parlait au début de l'émission.
C'est l'opposé, pratiquement. C'est l'opposé. Ça, c'est un petit peu étonnant et paradoxal. C'est pour ça que notre époque nous donne des mauvaises nourritures en matière d'estime de soi. Tous ces slogans, parce que je le vaux bien, vous êtes formidable, etc. C'est gentil, hein, c'est un peu démagogique et racoleur, mais c'est pas ça les bonnes pistes. Les bonnes pistes de l'estime de soi, c'est l'humilité, le lien aux autres, l'engagement dans l'action, comprendre que c'est pas seulement aussi en ruminant, en réfléchissant qu'on changera, mais c'est en agissant, en allant vers les autres, en osant agir et donc en prenant le risque d'échouer que l'on va progresser. Ça se passe pas en huis clos avec soi-même.
Christophe André, un grand merci. Je rappelle le titre de votre livre, Imparfait, libre et heureux, paru aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.